Voilà, on est dans une véritable continuité de ces missions-là d'enseignants formateurs dans le second degré. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter, alors pour certains, vous connaissez déjà le réseau de l'AEFE, peut-être parce que vous y avez exercé, peut-être parce que vous avez déjà candidaté sur des postes de formateur. Donc l'objectif, c'est quand même de vous redonner quelques éléments structurants sur notre réseau. Et à l'issue de ça, avec mes collègues présentes ici, nous essaierons de vous donner les éléments aussi pour la candidature, la sélection des candidatures et des questions diverses que vous pourrez nous poser. Mais avant d'aller plus loin, je proposais que mes collègues autour de moi se présentent pour que vous puissiez les identifier comme il faut.
Bonjour à tous et à toutes, Sylvie Roche, référente recrutement second degré.
Bonjour à tous et à tous, Virginie Chupin, DRH Adjointe.
Et bonjour à tous et à toutes. Donc Fabienne Chartier, chef du bureau du recrutement, des voyages et des missions.
Très bien.
Peut-être
Peut-être quelle précision, voilà, ouais.
quelques mots sur l'organisation et le fonctionnement un petit peu de ce webinaire. Comme vous avez pu le constater, vos micros sont coupés. C'est normal. C'est pour faciliter l'organisation de ce webinaire qui est par ailleurs enregistré, comme vous pouvez le constater sur vos écrans, afin d'être mis en ligne pour celles et ceux qui n'auraient pu se joindre à nous ce midi. Et vous pouvez donc, en revanche, interagir avec nous via le chat de réunion pour envoyer vos messages qui ne seront vus que par nous et auxquels nous essaierons au cours du webinaire de répondre dès lors que ce sont des questions qui sont susceptibles d'intéresser plusieurs d'entre vous. Pour les questions vraiment très très personnelles, on vous redonnera l'adresse mail à laquelle vous pourrez adresser vos questions directement.
Merci, j'espère que tout le monde nous entend bien. Et donc, si il n'y a pas de problème, je dirais, de connexion, je vous propose que nous commencions un petit peu ce webinaire. Pour ma part, je vais essayer de vous présenter, mais très rapidement, sur des grands traits, ce qu'est l'AEFE pour ceux qui ne le connaissent pas. J'espère ne pas trahir la connaissance de ceux qui sont déjà parmi nous ou qui ont été parmi nous. Donc, ce réseau des lycées français à l'étranger a aujourd'hui 33 ans d'existence à peu près. Il regroupe des établissements dans 112 pays, plus de 580 établissements, et scolarise à peu près 400 000 élèves. Une des spécificités de ce réseau, c'est que nous avons des établissements sous différents statuts. Et donc, comme nous avons des établissements sous différents statuts, nous avons des établissements en gestion directe, qui, eux, seront pilotés directement par l'AEFE. Nous avons des établissements conventionnés. Ce sont des établissements dans lesquels nous nommons des personnels, mais qui sont pilotés par un comité de gestion. Ça peut être aussi un board, ça peut être, en fait, ce sont des parents d'élèves très souvent, ou bien des personnes qui sont là depuis l'ouverture de l'établissement, qui gèrent la partie de la gestion financière de cet établissement, sauf bien sûr les rémunérations et les personnels que nous recrutons, qui sont bien sûr rémunérés par l'AEFE. Et enfin, une troisième catégorie d'établissement, parce que vous, en tant que formateur, vous serez confronté à cette troisième catégorie d'établissement aussi, ce sont des établissements partenaires qui sont des établissements totalement privés, qui sont autour de nos établissements du réseau. Alors, autour de ces trois catégories d'établissements que je viens de vous présenter, il y a un élément fondamental sur lequel vous allez être, ceux qui seront recrutés, vous allez être des éléments moteurs de ce principe-là. Tous ces établissements, qu'ils soient partenaires conventionnés ou en gestion directe, sont des établissements homologués par l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'éducation nationale, par une commission interministérielle, valide la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves et que cette qualité d'enseignement correspond aux standards de l'éducation nationale en France ou en métropole ou dans les départements d'outre-mer, en fait, etc. Tout le système est identique. Donc un enfant qui fait ses études chez nous peut très bien aller dans un autre pays, peut très bien revenir en France. Après son bac, il peut intégrer les universités. C'est ça le réseau et c'est cette homologation qui est au cœur de nos établissements. Et vous en êtes aussi les garants et les responsables, en tant d'abord qu'enseignant, mais aussi en tant que formateur, puisque vous allez participer à la formation de personnels qui peuvent être des non-titulaires et vous allez devoir les accompagner dans cette connaissance de notre système éducatif, de ses valeurs, mais aussi de ses compétences didactiques et des contenus d'enseignement qu'ils devront dispenser aux élèves. Donc voilà, voilà un petit peu le cadre dans lequel nous évoluons dans ce réseau avec ces différents types d'établissements. Une deuxième caractéristique, elle est liée au statut des personnels dans nos établissements. Et là aussi, vous allez voir, nous avons trois catégories de personnel qui sont maintenant dans nos établissements. En fait, je devrais dire deux maintenant, puisque depuis le nouveau décret qui est paru, on a deux catégories de personnel, des personnels détachés, dont vous ferez partie si vous êtes recruté, et des personnels de droit local qui sont recrutés directement dans l'établissement pour compléter, si vous voulez, les enseignements à dispenser aux élèves. À l'intérieur des personnels détachés, trois catégories de personnel, des personnels d'encadrement qui sont les personnels de direction, qui sont les personnels administratifs, que sont les directeurs d'école, qui pour nous aussi sont des personnels d'encadrement. Ensuite, nous avons une deuxième catégorie, c'est la vôtre, ce sont les personnels formateurs, enseignants-formateurs, et je précise bien enseignants-formateurs, premier et second degré. Premier degré, ce sont des EMFE, des CPA-IUN. Et second degré, ce sont les personnels qui sont recrutés dans chaque discipline dans le cadre de ces enseignants formateurs. Alors, je précise bien enseignants, parce que ça, c'est vraiment au cœur de la manière dont nous recrutons les gens. Vous allez être recruté dans un établissement pour assumer un horaire d'enseignement dans l'établissement. Depuis cette année, cet horaire est quand même minime puisque pour chacun d'entre vous, quel que soit votre grade, vous avez 6 heures d'enseignement à effectuer dans l'établissement. 6, plus ou moins une heure. Et tout le reste de votre service est un service qui sera dédié à la formation. Donc vous aurez un chef d'établissement, votre supérieur hiérarchique, qui sera celui dans lequel vous enseignez et qui sera votre chef d'établissement, mais vous aurez un rattachement fonctionnel à un institut régional de formation. L'AEFE, pardon, est réparti en 16 zones géographiques et 16 IRF, instituts régionaux de formation, dans lesquels ceux qui seront retenus vont pouvoir dispenser de la formation dans ces instituts. Donc, fonctionnellement, vous dépendrez aussi du pilotage de l'institut de formation, avec un chef d'établissement aussi, avec bien sûr un inspecteur pédagogique régional, avec un IUN pour le premier degré. Mais voilà, donc vous découvrirez ça, bien entendu, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais c'est quand même très important parce que la formation est au cœur du développement du réseau. Depuis 2018, le président de la République nous a demandé à l'agence de doubler nos effectifs. Donc malheureusement, il y a eu la Covid qui a impacté tout ce développement, mais aujourd'hui, cet objectif demeure. Donc le réseau de l'enseignement français à l'étranger, le réseau de l'AEFE a vocation à se développer. En revanche, comme vous le savez, au niveau des enseignants et des personnels, on n'a pas la capacité de détacher, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas la capacité de détacher plus de personnel que ce qu'il détache actuellement. Nous gérons à peu près 5 700 personnes dans le réseau et n'a pas la capacité d'en détacher davantage pour l'instant. Donc, pour assurer ce développement, on va devoir accompagner des personnels de droit local, ce sont des gens qui ont fait des études souvent remarquables, mais qui n'ont pas été formés à l'enseignement, à la didactique. Et donc, une de vos missions sera de les accompagner et de les aider à devenir des enseignants tels que nous les imaginons dans notre système éducatif français, tel que vous êtes. Voilà un petit peu rebalayer la problématique générale de ce réseau, des établissements et des personnels. Je reviendrai ensuite sur votre mission et sur nos attendus par rapport à, non pas à la partie didactique, et tout ça je laisserai mes collègues en parler, mais sur la partie liée à votre posture dans l'établissement et nos attendus en termes de personnel qui ont... Vous êtes pour qu'on soit très explicite, quand j'ai dit qu'il y avait trois catégories de personnel, Je me suis arrêté aux formateurs, il y a des personnels enseignants derrière, qui sont des personnels enseignants ou d'administration. Et vous, en tant que formateur, vous allez toucher, c'est une des réalités de ce réseau, vous allez être beaucoup plus payé que les collègues qui sont enseignants, ne serait-ce parce que vous avez une indemnité géographique qui est plus importante que l'indemnité de vie que touchent les collègues enseignants. Donc, il est évident que les attendus sont, l'exigence, elle est la même pour tout le monde. On attend d'avoir des personnels qui s'investissent et qui sont excellents dans leur domaine de compétences. Mais pour de votre côté, on sera encore plus exigeant par rapport à nos attendus en termes d'enseignants et de formateurs. Je préfère dire ça clairement dès le début. Je reviendrai tout à l'heure. Je vais peut-être laisser maintenant la parole à notre collègue ou peut-être à Virginie pour parler un petit peu de ce qu'est la procédure de candidature et la procédure de recrutement.
Alors, rebonjour à tous et à toutes. Alors, je me suis présentée en tant que référente du second degré. Je précise éventuellement pour ceux que j'ai déjà rencontrés qu'une nouvelle collègue prendra ma suite à partir de la mi-octobre. Mais pour l'instant, c'est toujours moi qui vais vous répondre, en tout cas encore pendant à peu près un mois. Alors, je vais vous parler du site de saisie. Alors, juste avant, je voulais quand même vous dire de ne pas oublier de vous connecter sur notre site à la rubrique personnelle et d'aller lire. Vous avez toutes les informations, si, d'autant plus si vous n'avez pas encore saisi votre dossier. Ça vous aidera justement dans la saisie de votre dossier. Donc, le site de saisie est ouvert. Il refermera dans une semaine, le jeudi 28 septembre à minuit pile. Je le reprécise, c'est très important. Le 29 septembre à minuit une, il sera trop tard si vous n'avez pas procédé à la validation finale du dossier et nous ne récupérons aucun dossier en dehors des dates, quel que soit le motif. Donc, vous avez donc plusieurs pages à renseigner. Je vais plutôt vous parler de l'étape 6 du site de saisie. J'ai eu beaucoup de questions en plus récemment. Donc, vous avez l'étape 6 qui est un peu cruciale, hein, puisque c'est qui concerne les vœux. Alors, très peu de postes hein, cette année dans le second degré. Il y en a 23 et toutes les disciplines ne sont pas représentées, effectivement. 23 postes. Je pensais au deuxième onglet là, sur la motivation des vœux d'affectation, puisque beaucoup de personnes me posent la question. Alors, il ne faut pas refaire une lettre de motivation ou même une synthèse de votre lettre de motivation. C'est vraiment une motivation des vœux sur lesquels vous vous positionnez, qu'on vous demande à cette étape-là. Ensuite, les vœux, bon, vous n'avez pas beaucoup par discipline, il n'y a pas beaucoup de postes, hein, donc là, je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Pensez quand même sur la partie vœux géographiques, de toute façon qui est bloquante, il faut au moins remplir une case, à bien étendre vos vœux géographiques en cas de poste supplémentaire. On pourra faire étudier votre dossier sur ces postes supplémentaires si et seulement si vous avez coché la case des vœux correspondants. Donc, en fonction de votre projet, si le projet c'est d'aller à l'étranger sans avoir de zone géographique particulière, moi, je vous conseille de cocher toutes les cases. Après, tout dépend de votre projet. Et d'ailleurs, votre projet, réfléchissez bien effectivement à l'articulation entre le projet familial et le projet professionnel. Je vais vous rappeler quelques règles administratives. Hein. Vous devez être titulaire de la fonction publique. Pour la majorité des cas, bien évidemment, vous êtes issu de l'éducation nationale. Et ces postes sont ouverts aux agrégés et aux certifiés uniquement. Ils ne sont pas ouverts aux professeurs de lycée professionnel. Vous pouvez être en position d'activité, vous pouvez être en disponibilité. Alors, en détachement, vous pouvez l'être également si votre détachement prend fin au 31 août 2024. Si vous êtes en cours de détachement, le ministère de l'Éducation nationale ne prendra pas un nouvel arrêté de détachement. Donc, si vous n'êtes plus en détachement au 1er septembre 2024, vous pouvez candidater, votre dossier sera recevable. Autrement, si vous candidatez, de toute façon, vous aurez un mail de l'accusé réception qui vous dira que votre dossier n'est pas recevable si vous êtes en cours de détachement. Je vous invite également à bien lire les profils qui sont publiés également hein, sur le tableau Excel. Donc, Monsieur Pujol vous a déjà parlé un petit peu du rôle que vous aurez. Alors, donc, vous allez postuler, vous devez nous renvoyer votre dossier via la plateforme France Transfert. Pour le 5 octobre, on vous demande de bien respecter cette date. Je vous demande également d'être assez concis dans les justificatifs que vous allez nous joindre, qu'ils collent bien ces justificatifs au profil, justement, à ce qu'on vous demande. Et puis, alors, en parallèle, vous devez transmettre une copie de votre dossier à votre hiérarchie, votre chef d'établissement, de toute façon, que vous soyez en France ou à l'étranger, et qui lui ou elle, alors si vous êtes en France, enverra votre dossier au rectorat, puisque, alors j'ai souvent la question aussi, c'est bien sûr votre service gestionnaire au rectorat à qui doit recevoir votre dossier, qui s'appelle en règle générale la division des personnels enseignants, dans la plupart des académies, ça s'appelle comme ça. Et puis, si vous êtes à l'étranger, bien sûr, c'est le COCAC. Et ensuite, que ce soit le rectorat ou le COCAC, ce sont eux qui nous renvoient la page, uniquement la page des avis, puisque nous, votre dossier, on l'a déjà reçu via France Transfert. Donc ensuite, on accusera réception de vos dossiers uniquement quand ils seront complets, c'est-à-dire dossier plus avis hiérarchique. Vous recevrez un mail. Et en parlant de mail, je fais un aparté. Quand vous saisissez, alors on ne vous écrira que par mail. Quand vous saisissez votre adresse mail sur le site de saisie, faites très attention à bien la saisir. Préférez une adresse personnelle. Les adresses académiques ne sont pas toujours bien... ne font pas forcément toujours bien ménage avec notre application de gestion. Donc, préférez une adresse personnelle autant que possible. Donc, vous recevrez un mail d'accusé réception. Ensuite, vous n'aurez plus de nouvelles de notre part jusqu'au mois de janvier. Les dossiers vont être étudiés. L'étude des dossiers est assez longue. Ensuite, il y a un travail aussi avec les inspecteurs pédagogiques régionaux rattachés à l'agence. Et puis, nous allons présélectionner des candidats pour passer un entretien. Donc, et puis cette présélection sera validée en groupe de travail avec les représentants du personnel. À l'issue du groupe de travail, vous recevrez un mail qui vous indiquera donc soit vous n'êtes pas sélectionné, vous aurez une petite phrase explicative, et n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir plus d'éléments si cette phrase ne vous satisfait pas. Ou alors vous recevrez une invitation en entretien avec les différents documents et les modalités pour passer cet entretien. Depuis quelques années, on est plutôt sur un format à distance, mais vous le saurez à ce moment-là. Donc peut-être qu'on ne sera qu'à à peu près 10 jours des entretiens qui vont se dérouler dans la première quinzaine du mois de février. Alors je ne sais pas en 2024 comment tombent les vacances scolaires, mais éventuellement s'il y a peut-être déjà une zone en vacances, faites attention à ça. On est dans des délais très contraints, les inspecteurs pédagogiques régionaux encore plus. Donc, on ne fait pas à la carte. C'est-à-dire que le jour et l'heure qu'on vous proposera ne pourront pas être, vraiment à la marge, ne pourront pas être modifiés. Donc, prenez vos dispositions, en tout cas, pour être disponible pour passer cet entretien. Un entretien donc qui dure 30 minutes, dont 10 minutes de présentation de votre part, pour présenter votre projet, vos motivations, 20 minutes d'échange avec les trois membres de la commission, dont donc le bureau du recrutement, bien sûr, est représenté dans cette commission. Il y aura un IPR en fonction de la discipline, et puis un représentant d'une autre direction, la direction du développement de l'accompagnement du réseau. Je vous invite à aller lire notre organigramme aussi assez attentivement pour voir un petit peu à quoi ça fait référence et pourquoi ils sont dans ces commissions. Donc, à l'issue des entretiens, trois cas de figure, vous n'êtes pas retenu. Alors, vous n'êtes pas retenu. Alors, c'est la sélection que l'on fera à l'issue des entretiens est validée en commission consultative paritaire, à l'issue de laquelle également vous recevrez un mail. Donc là, vous n'êtes pas retenu, vous recevez un mail avec également une petite phrase explicative qui, si elle ne vous satisfait pas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, je vous demande plutôt d'attendre la fin mars, vous le saurez à la fin du mois de février. Je vous demande d'attendre plutôt la fin mars pour revenir vers nous, de façon à ce que, parce qu'au mois de mars, on est un petit peu pris, donc pour qu'on puisse vous consacrer vraiment le temps nécessaire. Et vous pouvez être autrement classé numéro 2, numéro 3, voire numéro 4 ou numéro 5. Ça veut dire que là, on ne vous propose pas de pause dans l'immédiat. Mais on vous fait quand même potentiellement confiance pour partir si la personne classée en numéro 1 refusait le poste. Donc, ça n'est pas une sanction, c'est vraiment quand même une belle réussite. Mais il y a parfois, le choix est difficile à faire. Il y a quand même quelqu'un qui est passé juste devant vous. Alors, ça peut être frustrant, je l'entends, mais vous êtes quand même classé. Tout le monde n'est pas classé. Hein. Et puis, bah, dans le meilleur des cas, pour vous, on vous propose un poste. Donc là, on va vous laisser environ 8 jours pour nous répondre, pour nous dire si vous acceptez ou pas le poste. Vous avez le droit hein, d'avoir changé d'avis. Vous avez le droit, enfin, vous pouvez avoir aussi des impératifs familiaux ou autres. Et donc, ne plus pouvoir partir à l'étranger. Donc, vous avez le droit de refuser le poste. On ne vous en voudra pas. Vous ne serez pas pénalisé pour l'année suivante. On passera justement, vous ferez le bonheur de la personne classée au numéro 2, justement, si vous ne partez pas. Les 8 jours, en tout cas, mettez-les à profit pour vous renseigner, à essayer d'appeler les personnes qui sont en poste dans l'établissement dans lequel vous êtes recruté. D'appeler également la collègue ici à la gestion administrative. Vous aurez le nom sur le courrier de proposition de poste de cette personne. Je dis là, mais ça peut être on a quand même deux hommes parmi toutes les femmes. N'hésitez pas à les appeler également pour avoir toutes les informations de façon à pouvoir prendre votre décision en toute connaissance de cause. C'est très important. Donc ceux qui sont déjà partis le savent, ce n'est pas parce que la UFE vous recrute que vous partez, puisque c'est soumis quand même à deux conditions incontournable, le détachement, l'accord du détachement de votre ministère d'origine et qui n'est pas de droit, le détachement, je le rappelle. Et puis, l'agrément du poste diplomatique. Alors, ce sont des demandes que nous faisons au bureau du recrutement, c'est-à-dire qu'on vous enverra des documents avec la proposition de poste que vous devrez compléter. Vous nous renverrez ces documents, nous ferons ces demandes pour vous, nous ferons le suivi. Tant qu'on ne vous a pas donné cet accord, déjà, n'engagez rien. Vous n'êtes pas parti encore. Je dirais même tant que vous n'aurez pas signé votre contrat avec nos collègues du service administratif, n'engagez rien, ne vendez pas votre maison, je le dis parce que j'ai eu le cas à deux reprises. Vous n'êtes pas parti encore. Et puis, quand tout est OK pour nous, vous avez eu votre détachement, vous avez eu l'accord du poste diplomatique. Donc, nos dossiers partent au service administratif qui vous prendra en charge. Et c'est terminé pour le bureau du recrutement. Vous avez l'adresse mail générique hein, qui s'est affichée dans le chat. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser des questions. Sur le site, vous avez également mon numéro de téléphone à la rubrique personnel, détaché sur mission de formation, enseignant formateur du second degré. Je crois tout en bas de la page, vous trouverez mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas également à revenir vers moi. Je suis tout à fait disponible pour vous répondre. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Peut-être un complémentaire.
Oui, et puis comme on était sur la gestion administrative, peut-être un point sur le contrat et sur la rémunération. Alors, bon, pour celles et ceux qui ont déjà fait une mission, ils le savent, mais pour les autres, à l'agence, nous n'avons que des personnels détachés sur contrat que nous envoyons dans le réseau. Donc, il n'y a pas de corps de détachement. Donc, c'est une parenthèse dans votre carrière. Un lien contractuel lié à la durée de votre détachement octroyé par votre administration d'origine et une rémunération contractuelle dont vous pourrez retrouver le détail en allant consulter le décret 2022 hein, sur Légifrance. Votre rémunération principale, c'est votre traitement brut indiciaire, celui relatif à l'INM que vous détenez actuellement dans votre corps au moment de votre recrutement. Sur la première période de 3 ans de votre contrat, cette rémunération indiciaire sera gelée. Voilà, elle n'évoluera que lors du renouvellement 1 plus 1, le cas échéant. En revanche, Il faudra continuer à transmettre vos arrêtés de promotion d'échelon, puisque ces derniers seront pris en compte pour le calcul et la cotisation de votre pension civile, puisque même si détaché sur contrat, vous restez malgré tout fonctionnaire et relevant pour vos cotisations de la pension civile. À cette rémunération indiciaire s'ajoute l'indemnité géographique et de fonction spécifique évoquée par Monsieur Pujol, qui tient lieu d'indemnité de résidence que vous percevez en France. Alors, on ne pourra pas vous donner un montant précis, donc c'est inutile de solliciter notre collègue pour lui demander dans tel pays elle sera de combien, etc. C'est un calcul un peu compliqué qui varie aussi d'une année sur l'autre, hein, qui varie surtout d'un pays et d'un groupe à l'autre en fonction des conditions de vie, des conditions sécuritaires des différents pays. Voilà, donc il peut y avoir des différences importantes entre les zones et entre les pays. Ce n'est pas ce qui fera votre fortune de toute façon, puisque si elle est d'un montant élevé, c'est parce que dans le pays, il est difficile de se loger, que les loyers sont très chers, ou que de se nourrir coûte également cher. Donc voilà, c'est le principe, c'est ne pensez pas faire fortune. C'est l'objectif de cette indemnité, elle est de vous permettre de vivre correctement dans votre pays. S'ajoute également, comme en France, un équivalent au supplément familial de traitement, qui là aussi est beaucoup plus important, sont les majorations familiales que ce qui est servi en France. Mais là non plus, vous ne ferez pas fortune, puisque c'est destiné à couvrir les frais de scolarité de vos enfants, puisque nous sommes un service public d'enseignement, mais qui, à la différence de ce qui est organisé en France, n'est pas gratuit. Nous sommes dans les pays, un système privé et donc avec une scolarité payante. En parlant de scolarité, peut-être je termine sur la rémunération, vous avez le droit à l'ISOE, en revanche pas d'HSA puisque déchargé. Déchargé donc en fonction de votre service statutaire de PRAG ou de PRCE, hein, sur 18 heures ou sur 15 heures, à l'équivalent du service d'enseignement dont vous serez redevable de 6 heures. Voilà. Donc c'est variable, c'est soit 11 heures, soit 9, voilà, en fonction de votre statut. Et sur les possibilités justement de scolarisation, on a parlé d'homologation aussi tout à l'heure. Donc il est aussi important, et de projet de vie, de projet familial, autant que de projet professionnel, il est important que vous regardiez aussi dans vos choix les possibilités ouvertes en fonction de l'âge de vos enfants en termes de scolarité, puisque tous nos établissements ne sont pas homologués forcément de la maternelle à la terminale. Donc, il est important que vous sachiez si vous pourrez scolariser dans votre établissement ou dans un établissement voisin, ou s'il faudra plutôt partir sur une scolarité CNED, etc. Voilà, ça fait partie des points d'attention que l'on pense être important à vous communiquer. Facile.
Non, c'est pas.
Je vais peut-être poursuivre tout de suite sur la prise en charge des voyages. En fait, sur ces contrats en fait de détaché d'enseignants formateurs, vous avez aussi droit à la prise en charge des voyages de nomination et au versement d'une indemnité de changement de résidence. Donc, l'AEFE prend en charge les billets d'avion en fait pour vous et votre famille, vos ayants droit, et verse également une indemnité de changement de résidence. Il y a 80% du montant de cette indemnité qui sont versés après la signature du contrat. De toute façon, la signature du contrat, c'est vraiment le déclencheur pour toute la suite, en fait, pour mettre en place la paye. Enfin, vraiment, c'est le document qui officialise vraiment le recrutement. Donc, après la signature du contrat, on peut mettre en place donc les voyages, mettre en place le paiement de l'indemnité de changement de résidence pour 80%. Et les 20% restants seront versés après surproduction de justificatifs de facture de déménagement. Cette indemnité, cette prise en charge du voyage, elle est aussi valable à la fin de la mission. Vous aurez droit pour aussi à la prise en charge donc du voyage pour revenir en France sur votre nouveau poste et au versement d'une indemnité de changement de résidence. Pendant la durée du contrat, vous aurez aussi droit à des voyages de congé. Alors la durée en fait de séjour varie en fonction des pays. Les pays un peu plus difficiles entre guillemets, vous aurez droit à un voyage de congé tous les ans. Dans les autres pays européens, entre autres, ce sera un voyage tous les 3 ans, donc une fois dans le contrat, pour vous et votre famille également. Donc c'est vrai que ce sont des éléments à prendre en compte aussi dans ce projet familial en fait. Il y a un accompagnement de l'agence pour ces prises de poste. Hein.
Merci pour ces informations. Peut-être rajouter quelques éléments autour justement de ce projet familial aussi. Ça a été évoqué tout à l'heure par Virginie Chupin. Et il me semble que c'est un projet que vous devez anticiper dans le cadre familial. Vous savez ce que vous avez en France en termes de rémunération, de qualité de vie, etc. Partir à l'étranger, nous vous recrutons pour l'instant, vous. Donc, si vous êtes un couple qui où les deux travaillent, pour l'instant, nous en recrutons un des deux, même si le salaire, comme on vous l'a dit, peut être au départ assez important. Une fois que vous aurez payé des frais de scolarité, si vous en avez, une fois que vous serez logé, et vous risquez d'avoir, si votre conjoint ne travaille pas, vous risquez de vous retrouver dans une situation qui peut être problématique dans le cadre de votre future expatriation. Et c'est vraiment une expatriation. Là, on parle d'une expatriation. Et donc, je pense que cette réflexion est importante. On sait que parfois, on a des couples d'enseignants qui partent à l'étranger. Si nous vous recrutons, c'est pour vous que nous faisons le contrat. Et il n'est pas évident que votre conjointe ou que votre conjoint obtienne un poste dans le réseau des lycées français à l'étranger. Premièrement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Deuxièmement, parce que y a des viviers sur place. Donc, il se peut très bien que même si dans le cadre de nos priorités, on peut être recruté dès la première année, mais c'est pas une certitude. Donc, en termes de personnel détaché. En revanche, vous pouvez peut-être avoir un poste en droit local et peut-être vous devrez attendre un an pour obtenir un poste pour la personne qui vous accompagnera. Je crois que c'est important que tout ça soit clairement discuté, réfléchi, parce que des fois, on interrompt sa carrière, hein, on prend une disponibilité pour accompagner, et il ne faut pas que ce soit pesant ou que ce soit quelque chose qu'après vous regrettiez, parce que on le voit malheureusement, ça peut amener par exemple à des problématiques qui font qu'à un moment donné, on se dit je me suis trompé. C'est pas le côté professionnel qui pose problème, c'est le fait que j'avais pas anticipé que d'abord je suis très loin de ma famille. Que je ne reviens pas aussi souvent que je le pensais parce que les voyages sont onéreux. Il me semble que cette réflexion du projet professionnel lié vraiment à un projet d'expatriation familiale doit être au cœur de votre réflexion pour ne pas que vous ayez des regrets dans la mission pour laquelle nous vous recrutons. Notre objectif, comme je l'ai dit dès le début, c'est que nous ayons en face de nous des collègues qui soient, je dirais, heureux d'abord de partir à l'étranger, heureux d'aller vers la découverte d'une autre culture, d'une autre civilisation, d'un autre monde, et qui ne soient pas, si vous voulez, confrontés très rapidement à une réalité qu'ils n'avaient pas anticipée, trop de charges en France, l'incapacité d'y arriver. Je le dis parce que c'est souvent ça qui crée un problème plus que le problème professionnel. Parce que comme ça vous a été dit, on va scruter votre dossier, on va regarder vos compétences, on va regarder votre parcours, vous allez participer à un entretien. Donc, si vous franchissez toutes ces étapes, c'est que pour nous, les compétences métier, vous les avez. Donc, on prend un peu de risque à ce niveau-là. En revanche, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, je vous l'ai dit, c'est le projet familial. Et il y a une deuxième chose qu'on ne maîtrise pas, ça sera votre capacité à vous adapter à l'étranger. Parce que c'est pas la France. On a pour faire le même métier. Le contexte géopolitique et le contexte d'établissement est différent. Et donc, obligatoirement, il va falloir s'adapter à des coutumes, à des us, à des règles qui ne sont pas toujours les mêmes que celles qu'on connaît. Même si, comme ça a été dit, hein, on est un service public d'enseignement, on véhicule les valeurs de la République française, on véhicule les compétences et les enseignements de l'éducation nationale. Donc, mais on est dans un pays qui nous accueille. Donc, C'est une richesse, évidemment, c'est une richesse, c'est une ouverture d'esprit, mais voilà, il faut bien regarder où vous voulez aller, il faut accepter qu'on ne vive pas de la même façon et accepter que ça puisse être par moments un peu compliqué. Vous voyez bien les situations géopolitiques aujourd'hui dans certains pays qui peuvent peut-être vous inquiéter. Je pense à certaines zones d'Afrique, je pense à l'Ukraine, je pense, voilà, on a des zones aujourd'hui où enseigner à l'étranger, c'est pas facile parfois. Sachez qu'on accompagne tous nos personnels détachés et nos recrutés locaux, on les accompagne systématiquement dans les cas de crise. En les faisant, en passant, revenir en France pour enseigner à distance de France, en les protégeant sur place. Enfin, là, on n'est pas tout seul, parce que ce que j'ai oublié de vous dire dès le début, c'est que vous avez quand même quitté le ministère de l'Éducation nationale pendant un certain temps, là au moins la durée du contrat, pour être sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc, ce qui va guider notre mission à l'AEFE, ce qui guide votre mission au-delà de la mission d'enseignement, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc, votre supérieur hiérarchique pour vous, c'est le chef d'établissement, bien entendu, mais le chef du poste, l'ambassadeur est responsable de tous les personnels français qui sont dans son pays. Donc, il est aussi votre supérieur hiérarchique. Et donc, ça, c'est quand même important à comprendre dans la manière dont vous allez prévoir cette expatriation. Le dernier point pour moi peut-être important, c'est la relation. Vous allez voir que dans votre métier d'enseignant, alors je ne parle pas du métier de formateur, ça c'est un autre domaine, je vous en ai parlé rapidement, mais vous avez quand même un métier d'enseignant, puisque vous avez des heures d'enseignement à faire. Vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. Premièrement, que les parents sont très, très, très présents, que votre enseignement va être scruté, que la manière dont vous notez va être regardée, et que vous avez en face de vous, dans la très grande majorité, des parents d'élèves dans beaucoup de pays qui connaissent notre système et qui interrogent nos pratiques pédagogiques parfois à tort ou à raison, mais on est sous ce regard-là. Donc il faut que vous le sachiez parce que c'est aussi une des spécificités de ce réseau. Après, on a un public élève qui sont des jeunes qui, vous verrez que la discipline, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est au cœur de votre mission. Vous allez pouvoir vous intéresser à la didactique. En revanche, vous avez des jeunes qui, parfois, et on peut les comprendre, ont plutôt envie de s'amuser que de travailler. Mais en revanche, ils savent se mobiliser au bon moment et on a d'excellents résultats aux examens parce que ce sont des élèves qui ont vraiment, d'abord, ils sont issus de catégories socioprofessionnelles, je dirais, favorisées. Et ils ont les capacités de se mobiliser pour réussir leurs examens. Donc voilà, vous allez avoir un public un peu, je dirais, favorisé. Et on attend de vous, justement, à ce moment-là, que vous les accompagniez pour se dépasser et pour les accompagner dans des projets souvent d'études qui sont des projets ambitieux pour lesquels ils nourrissent vraiment de bons résultats aux examens. Donc on a besoin, vous voyez, de votre participation pour réussir la mission qu'on va vous confier dans nos lycées français à l'étranger. Voilà un petit peu les grandes lignes que je voulais vous donner sur cette mission. Et je crois que ce qui est quand même fondamental, c'est que vous ayez en tête que même si vous restez des enseignants, vous êtes des formateurs, vous êtes des enseignants, mais quelque part, votre statut fait que vous représentez aussi l'État français. Et donc, voilà, on est soumis à un droit de réserve dans les pays où nous allons, sur la politique du pays dans lequel nous sommes. Et je crois que c'est important que, avant de partir, vous regardiez bien où vous allez et les conséquences que pourrait avoir la vie dans ce pays pour savoir si vous n'êtes pas adapté.
Et sur la zone, même d'ailleurs, parce que en tant que formateur,
Oui,
vous
tout
serez
à fait.
amené à effectuer des déplacements.
À fait.
Voilà, donc ça c'est aussi à prendre en considération dans l'organisation familiale, etc. Et il se peut aussi qu'il y ait des moments où vous ne soyez pas physiquement présente dans votre établissement en raison de votre casquette de formateur. Alors, s'adapter au pays, s'adapter, découvrir une nouvelle culture, c'est aussi découvrir l'AEFE et des méthodes aussi peut-être un petit peu différentes en termes d'enseignement, en termes de formation. Nos instituts régionaux de formation ont été mis en place, enfin, en tout cas formalisés, institutionnalisés, là, au début de cette année 2023. Et la force de l'AEFE, c'est d'être un laboratoire d'innovation. Donc ça, c'est une richesse à laquelle on vous demandera forcément de participer en tant que formateur.
Absolument. L'exemple type, juste pour vous donner un exemple, ça a été la Covid. La Covid, où on a fermé tous nos établissements dans le réseau, hein, tous, sans exception, et on a mis dans tous nos établissements de l'enseignement à distance. Et vos collègues, vos prédécesseurs, certains qui sont encore dans le réseau, ont travaillé avec les inspecteurs pour faire des plans de formation, enfin des plans d'enseignement là, et d'accompagnement des personnels à distance pour les aider à travailler sur des progressions, alors qu'on faisait de l'enseignement à distance, ou on faisait de l'hybride parfois, et on a accompagné ce réseau d'une manière remarquable par votre intervention et par le travail qu'avaient fait aussi les inspecteurs. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on n'a pas perdu d'élèves dans ce réseau, et on en a même gagné alors que la Covid était encore là. Donc ça veut dire que les gens nous font confiance, vous font confiance, parce qu'ils attendent de nous une qualité de l'enseignement qui soit à la hauteur, je dirais, de l'investissement qu'ils mettent dans nos lycées français à l'étranger. Puisque comme ça a été dit, on vous a dit que vous touchez des majos, ça veut dire que les parents paient des frais de scolarité pour scolariser les enfants chez nous. Donc on est au service un peu, on est un service d'éducation pour ces parents-là. Et ce qui entraîne aussi l'exigence dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, on attend de vous de l'engagement et aussi de l'exemplarité parce que c'est important par rapport à la France et à la France que vous représentez dans le pays où vous allez enseigner.
Pour terminer, moi, je voudrais effectivement souligner ce que l'on a déjà dit, de vraiment se projeter en fait sur les postes qui sont proposés parce que les zones de formation n'ont pas du tout le même périmètre suivant les postes proposés. Donc, dans l'idéal, c'est d'essayer de rentrer en contact avec les collègues qui sont déjà en poste sur place. Donc, sur Internet, vous allez trouver, je pense, assez facilement les coordonnées au moins de certains référents de zone. Sinon, contactez les chefs d'établissement qui peuvent vous mettre en contact avec les collègues qui exercent déjà. Bon, c'est vrai que ça peut paraître fastidieux, vous n'aurez pas toujours de réponse, mais si vous pouvez avoir quelques contacts, je pense que c'est quand même intéressant de mesurer cette différence en fait, d'exercice suivant les zones dans lesquelles vous pouvez être nommé. C'est vraiment un point important de votre projection personnelle et aussi professionnelle, parce que ce n'est pas du tout la même façon d'exercer d'une zone à l'autre. Et je voulais ajouter un point aussi vraiment pour terminer cette présentation, c'est que là, c'est un séminaire qui concerne, donc vous avez compris, les enseignants qui sont aussi formateurs. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui n'ont pas l'expérience de formateur. En consultant notre site, vous avez pu voir, peut-être que vous verrez, qu'il y a aussi des possibilités en fait de postes d'enseignants, de détachés enseignants. Ce n'est pas le même calendrier. En fait, les postes seront publiés vers la mi-décembre. Et là, vous devrez ensuite constituer vos dossiers directement auprès des établissements. Donc, on recrute également des collègues qui sont enseignants sans expérience de formation sur des postes différents avec un autre statut.
On a eu quelques questions. On va essayer d'apporter quelques réponses en même temps.
J'ai vu une question sur le site de saisie, donc vous le trouvez sur le site de l'AEFE, à la rubrique personnelle, le chemin que j'ai donné tout à l'heure, vous allez dans les détachés sans mission de formation, enseignant formateur du second degré, et sur la partie droite de l'écran, vous avez un lien directement pour accéder au site de saisie. Bon, si vraiment vous ne le trouvez pas, vous me contactez, mais bon, normalement, si vous suivez ce chemin, ça devrait aller. J'ai vu effectivement un message sur les justificatifs. Alors, la liste des justificatifs vous est donnée à l'étape 7 du site de saisie. Et justement, effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on vous demande de respecter l'ordre dans lequel ils sont indiqués, de façon à simplifier un petit peu, nous, la lecture de vos dossiers. Donc, vous avez, c'est très classique, une lettre de motivation. Alors, j'ai souvent la question, j'en profite. On ne précise pas la forme de cette lettre de motivation, c'est parce qu'il n'y a pas de contrainte. On ne vous demande pas si forcément à ce qu'elle soit manuscrite. Et moi, je dirais même en tant que lectrice de vos dossiers que même si elle peut être plutôt dactylographiée, je préfère. Voilà, c'est plus lisible. Donc, toute la liste, donc vous l'avez à l'étape 7 du site de saisie, vous la retrouvez sur le dossier lorsque vous avez... soit vous avez le dossier brouillon, soit lorsque vous avez validé votre dossier, vous avez toute cette liste de dossiers, de justificatifs. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Une lettre de recommandation dans le dossier, bah c'est oui, pourquoi pas, c'est toujours si alors des lettres de recommandation, peut-être qu'ils listent aussi peut-être des actions de formation que vous avez faites. Si toutefois vous n'avez pas de justificatif de votre rectorat, ça peut être listé par votre chef d'établissement, votre IPR. Il faut que ça soit, enfin, on vous demande des justificatifs parce que on ne peut pas se contenter que du déclaratif. Mais donc ça peut être sur une lettre de recommandation tout à fait. Petit problème technique sur les CDV. Plusieurs le même message d'erreur apparaît. Alors je sais pas.
Oui, il y a peut-être sur certains ordinateurs liés à des réseaux, il y a peut-être des pare-feux en fait qui bloquent l'accès à notre site, mais on a des dossiers saisis tous les jours.
Oui,
normalement, ça particulier en ce moment.
Pour les questions plus personnelles, comme je peux en voir, merci de me contacter.
Voilà.
Là, on est plutôt sur de l'information générale aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me contacter.
Ce qui est important de retenir sur ces postes, c'est qu'effectivement, on recrute des enseignants formateurs, donc il faut absolument justifier d'une expérience de formateur. Mmh. C'est un des principes du recrutement à l'AEFE où on recrute des collègues qui ont déjà l'expérience des fonctions. Donc, si vous n'avez pas d'expérience de formateur, on ne pourra pas vous retenir sur ces postes de formateur. Vous allez partir à l'étranger pour être formateur. Vous devez absolument justifier d'une expérience en la matière. Et c'est ce que précisait ma collègue. Du coup, il nous faut des justificatifs pouvant attester de cette expérience de formateur. Donc, sur la question des justificatifs, il faut quand même cibler. On a parfois des dossiers qui sont énormes.
Ouais.
Cibler vos justificatifs vraiment sur cet aspect.
Oui, il y a même sur les diplômes, ce que vous avez pu obtenir, il faut que ça soit quand même en lien avec ce qu'on vous demande. Et puis, l'expérience dans la formation doit être avérée, mais aussi récente. On demande plutôt une expérience dans les 5 dernières années. Alors après, à la marge, on étudie les dossiers. Hein. Donc ça, c'est par rapport au... Y a-t-il une limite de nombre d'années passées à l'étranger? Alors effectivement, on a des règles de gestion hein, à l'agence. Si vous êtes à l'étranger actuellement depuis plus de 9 ans, votre dossier ne sera pas prioritaire. Il sera placé dans ce qu'on appelle le vivier complémentaire. C'est-à-dire que vos dossiers sont étudiés uniquement si nous n'avons pas assez de candidatures dans le vivier principal. Et si vous venez de revenir également en France après avoir travaillé à l'étranger, il faut avoir fait 3 années en activité. C'était 2 années maintenant, on est passé à 3 années, avant de pouvoir à nouveau être dans le vivier principal. Mais n'hésitez pas à me contacter pour ça si vous avez un doute par rapport à votre situation. Mais lorsque vous saisissez le dossier dans les prérequis, on vous pose des questions auxquelles vous devez répondre. Alors effectivement, si vous répondez oui à une seule de ces questions, vous avez un message d'alerte qui s'affiche qui vous indique que votre dossier ne sera pas dans le vivier principal. Mais pour autant, ça n'est pas bloquant, vous pouvez continuer la saisie. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à me poser la question.
Alors, en détachement, continue-t-on de faire progresser sa carrière et d'avancer dans les échelons? Oui, c'est le principe du détachement. Vous avez une double carrière. Vous continuez à évoluer dans votre administration d'origine. Et au niveau de la DRH, un bureau de la DRH s'occupe justement de tout ce qui va être PPCR, promotion, campagne de promotion, tableau d'avancement, les listes d'aptitudes. Vous aurez toutes ces informations-là pour continuer à évoluer dans votre carrière principale de fonctionnaire. Et oui, les rendez-vous carrière existent tout à fait dans nos établissements au sein de l'AEFE, sont renvoyés à votre administration d'origine, etc.
Très bien. Écoutez, je crois qu'on a essayé pendant ces 50 minutes de vous donner, un maximum d'informations qui, j'espère, vous ont éclairé sur... votre future candidature pour un poste de formateur dans le réseau de l'AEFE. Pour ceux qui viendront, je suis certain que c'est une expérience extraordinaire que vous allez pouvoir vivre personnellement et familialement. C'est une expérience exigeante, vous verrez, avec beaucoup de travail, de l'engagement de l'engagement qui est très important, parce que les sollicitations seront dans le lycée et dans l'IRF pour la formation et dans l'établissement. Donc oui, ça va être exigeant, ça va être passionnant. Et donc voilà, on vous souhaite de nous rejoindre et on vous souhaite une bonne continuation dans votre métier à l'heure actuelle et dans vos postes où vous êtes actuellement. Merci à vous toutes et tous et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.